France Musique.
Ah. Oh.
Wakadi.
Non.
Adieu, hein.
Ici, Radio Meumeu.
Vous fumez beaucoup, Serge Gainsbourg.
Oui.
De l'entrée en scène, c'est comme des bras d'amour, hein.
À vous, mon cher Dac.
Après vous, mon cher Blanc.
Mais je n'en fais rien.
Vous en êtes un autre.
Ma parole, ça fera guincher.
Langage, langue, langage.
Ah oh, mais ce n'est pas Thérèse, ma femme. Quel malotru a mis ses vêtements. Aucun doute, c'est un assassin, il l'a tué. Thérèse, 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 ma petite Thérèse. Où es-tu? Où es-tu, Thérèse? Où es-tu? Où es-tu, Thérèse? Thérèse, Thérèse, ma petite Thérèse. Où es-tu? Où es-tu? Mais toi, vil personnage, qui t'es déguisé en Thérèse, je te tuerai.
Tu as raison, je ne suis plus ta femme.
Par exemple.
Irrésistible Francis Poulain qui donnait la réplique à Denise Duval dans cet extrait des Mamelles de Tirésia, c'était lors d'un récital à Bordeaux en 1958. Les inconditionnels de la musique de Poulain fondent, dès lors qu'ils entendent le nom de Denise Duval, je leur recommande d'ailleurs la lecture d'un joli petit livre de Bruno Béranger, paru en 2003, intitulé tout simplement « Denise Duval ». « Je n'ai jamais aimé chanter », a-t-elle dit, qui par cet aveu presque incroyable d'ailleurs au regard de sa carrière de chanteuse, Denise Duval livrait le secret d'une vocation contrariée, celle de comédienne. Et pourtant, son art dramatique, elle avait souverainement servi durant toute sa vie de chanteuse lyrique. Et c'est bien de cette combinaison des talents qu'une Duval a servi la scène. Les archives de l'INA vont nous permettre aujourd'hui d'interroger cette passion des planches. C'est Denise Duval qui nous parle.
J'ai toujours adoré la comédie et la tragédie, toujours. Toujours. Ça, c'était mon rêve. Il n'était pas question pour moi du tout de faire de chant parce que j'avais une jolie voix, mais ça m'ennuyait prodigieusement. Alors, comme j'étais nulle en classe et que mon père était officier, les filles de famille sont appelées à se marier, non pas à avoir une situation, puisque je ne suis pas jeune, j'ai 48 ans. Et quand j'ai décidé de faire de la comédie, d'aller au conservatoire de comédie, mon père m'a dit « ce sera parfait, au moins tu sauras tes classiques ». Et je suis entrée au conservatoire de Bordeaux, pour faire de la comédie et de la tragédie. Et puis j'ai été un jour appelée par le directeur du conservatoire, qui était Gaston Poulet, et qui m'a dit, pareil, Denise Duval, que vous chantez bien, chantez-moi quelque chose. Je me suis dit, il est gâteux, il est fou, ça va pas. Je lui ai chanté un air de Jeannette MacDonald. Il m'a dit, écoutez, l'année prochaine, vous présentez au concours de chant, d'opéra comique, vous faites vos classes, sinon vous serez barré pour le concours. Je me suis dit, complètement, ça va pas. J'ai fait hélas ce qui... Enfin, hélas. J'ai suivi ses conseils parce que
vous
je ne pouvais
dit
pas...
hélas.
Oui, j'ai fait hélas parce que je vous dis, le chant, pour moi, ce n'était pas ce qui me passionnait. C'était la comédie. Enfin, je suis sortie avec mes prix de chant. Et la première année que Gaston Poulet était là, il avait demandé que le premier prix d'opéra à l'unanimité soit engagé pour la saison. C'était moi. Je n'ai pas eu de chance puisque je vous dis, je voulais faire de la comédie. Bon. Alors, très bien, mes parents ont accepté. Ils se sont dit, elle fait ses débuts au Grand Théâtre, ça fera très bien, la fille de famille qui chante, ça fait très bien, bravo. Et ma carrière a démarré sur l'opéra comique.
Appui, tandis que trop loin de mon époux, redoute
tire-lit-tu, tire-lit-tu, de dire à ma vertu, tire-lit-tu, qui dans la vie, femme jolie, toujours varie en perdant ses attraits, qu'elle supplie, qu'elle crie, son cœur vieillit, le temps flétrit ses traits. Oh, j'ai peur de faiblir, ah oui, je me sens tressaillir, quand on vient m'assaillir, ah oui, près de ton drame, je ne sens que mon sang bouillir. Je me sens bouillir, ah oui, je me sens tressaillir, quand on vient m'assaillir, ah oui, près de ton drame, je ne sens que mon sang bouillir. Comme le chamois tremblante des mois, je demeure à moi, lorsque près de moi,
Denise Duval interprétait cet air de Pénélope du Retour d'Ulysse d'Hervé avec l'orchestre lyrique de la RTF dirigé par Marcel Cariven. C'est une archive de 1956 et Denise Duval, juste auparavant, évoquait sa passion pour les planches, encouragée par une famille suffisamment tournée vers les arts pour lui permettre de s'inscrire en classe de tragédie-comédie au Conservatoire de Bordeaux, où la jeune Denise est orientée par son directeur, le violoniste et chef d'orchestre Gaston Poulet, le père de Gérard. Elle s'inscrit donc dans la classe de chant et imaginons un peu une remise des prix dans Bordeaux occupé en 1941. C'est après un discours d'Alfred Cortot à la gloire du maréchal Pétain que Denise Duval se voit remettre son premier prix d'opéra comique et son deuxième prix d'opéra dans le rôle d'Elsa de Lohengrin. Et puis, une autre situation tout à fait impensable aujourd'hui, le jury est alors en partie constitué de professionnels du Grand Théâtre de Bordeaux. Imaginez un peu pour recruter des jeunes talents, c'est pourtant l'idéal, hein, de les voir ainsi juste éclore à la sortie du conservatoire, et c'est ainsi que la belle et talentueuse Denise Duval tape dans l'œil et dans l'oreille du directeur du Grand Théâtre, René Chauvet. L'ascension va être fulgurante après des débuts en octobre 1942 dans Cavalleria Rusticana. Les premiers rôles vont lui être attribués. Elle est même Marguerite du Faust de Gounod en décembre 1942. Alors bien sûr, tous ces succès vont l'inciter à monter à Paris, comme on dit.
Tout le monde me dit, mais il faut absolument aller à Paris. Mais qu'est-ce que vous faites à Bordeaux, à Bordeaux? Et puis, par des amis qui avaient un collier à porter à Max Rupa, un petit cadeau à porter à Max Rupa. Je ne savais pas qui était Max Rupa. C'était l'impresario de Maurice Chevalier. Il me voit, j'étais jeune, bien. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites à Bordeaux? Ben, je ne vais pas venir chanter, mais ça, je le sais. Mais qu'est-ce que vous, pourquoi une femme comme vous, mais ce sont des millions que vous pouvez gagner. Alors j'ai dit, ben, écoutez, je vous laisse faire. J'étais au Bristol à ce moment-là. Il me téléphone au Bristol. Il me dit, écoutez, rendez-vous demain aux Folies Bergères. J'ai pris un taxi, je suis allée aux Folies Bergères. J'avais l'air d'Hérodiade que je venais de prendre pour auditionner à l'opéra. Madame Butterfly. Et c'était Michel Guermarty qui était avec Monsieur Derval dans la salle. Tout de suite, je me dis, bon, d'accord, on prend cette femme. Je crois que j'avais 70 000 ou 80 000 francs par mois. Mais je vous parle d'il y a, c'est-à-dire en 45, ce qui était pas mal d'argent. Je pouvais vivre. Et voilà comment je suis rentrée aux Folies Bergères. J'ai signé tout de suite mon contrat. Mais je suis revenue à Bordeaux pour chanter toujours, pour finir ma saison. Mais alors là, ça a été la catastrophe. Parce que quand j'ai annoncé que j'allais aux Folies Bergères, vous pensez bien que tout le monde a dit « elle est folle, enfin, c'est fini, elle est perdue ». Il n'y a pas une maison plus sérieuse où on ne reçoit personne et où on fait un travail extraordinaire. Et où il y a une discipline de faire. Là, j'ai appris beaucoup. C'est un métier qui s'apprend. Là, on l'apprend aux Folies Bergères.
C'est fait, l'horloge est à sa place.
Déjà, ah, monsieur, que de grâce. Il n'y
dire, il faut qu'à nouveau je m'en débarrasse. Vous allez me trouver bien folle, cher monsieur. Comment vous faire cet aveu? Donc, à peine étiez-vous parti avec l'horloge vers ma chambre, j'ai réfléchi que celle-ci serait mieux que vous ensemble.
Señora, c'est votre plaisir, je suis tout à votre service.
Tant d'indulgence à mon caprice. Oh, monsieur, je me sens rougir.
Voilà, c'est celle-ci à l'instant que j'emporte.
Quand vous aurez rapporté l'autre, quelle courtoisie est la vôtre? Vous êtes un vrai paladin.
C'est ainsi que ton cœur, éternel féminin, apparaît plus mouvant que les plis d'une jupe. Caprice de femme, chanson.
Moi, ça m'est égal, ça m'occupe.
Les muletiers n'ont pas de conversation.
Un extrait de L'heure espagnole de Maurice Ravel. C'était Denise Duval, bien sûr, qui campait une conception de caractère avec deux de ses complices, Jean Giraudeau, qui incarnait Gonzalve, et Jean Vieuil était Ramiro, avec l'orchestre de l'Opéra Comique, placé sous la direction d'André Cluytens. Ce rôle de conception, eh ben, Denise Duval va l'interpréter pour la première fois en mars 1950, Salle Favart, et elle va le chanter durant des années. Mais auparavant, nous étions donc en 1944, quand nous avons quitté Denise Duval dans cette archive de l'INA. Elle était alors meneuse de revue aux Folies Bergères. C'est une magnifique école de la scène, hein, comme elle le rappelait. Cela étant, cette jeune femme a de l'entregent, notamment grâce à son père qui a des connaissances. C'est ainsi que le préfet de Versailles, ami intime du colonel Duval, obtient pour Denise un rendez-vous avec le nouvel administrateur de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, Georges Hirsch, et ne tarde donc pas à intégrer la troupe de l'Opéra Comique. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Francis Poulenc. Celui-ci nous raconte.
Imaginez-vous que les mamelles reçues par Jacques Roucher dès le printemps 45 n'ont pu passer qu'en juin 47, si mes souvenirs sont exacts, car je ne trouvais pas d'interprète pour créer le rôle difficile de Thérèse Tirésias. Voyez-vous, j'étais certain d'être emboîté et je pensais avec raison que je me défendrais mieux avec une jolie fille et qui aurait de l'abattage et du cran. Et jusqu'en février 47, je n'avais pas trouvé l'oiseau rat. Alors, Max Derieux, à qui je dois une sensationnelle mise en scène d'ailleurs, avait déjà commencé à faire répéter les rôles d'hommes, mais pour le rôle de Thérèse, on n'a pas pu dénicher la star rêvée. Et puis un beau jour, il me dit, « Dis donc, si tu as le temps, monte donc au petit théâtre. » Au petit théâtre, c'est à l'Opéra Comique. Tu verras une jolie fille qui sort des Folies Bergères et elle pourrait peut-être faire ton affaire. Alors je ne me le fis pas dire deux fois. Je pris l'ascenseur, je montai à ce petit théâtre sous les toits où se font la plupart des mises en scène de l'Opéra Comique. Et là, j'ai vu, très sportivement vêtue d'une jupe de flanelle grise et d'un sweater jaune, Mademoiselle Denise Duval. Je ne savais même pas son nom. Elle répétait la Tosca avec Madame Hirsch, dont le mari était alors directeur des subventionnés. Alors, tout de suite, je fus frappé par sa voix lumineuse, sa beauté, son chic, et surtout ce rire sain qui, dans les mamelles, fait merveille. Alors, en un instant, j'étais décidé, et c'était l'interprète rêvé. De plus, venant des Folies Bergères, où Georges Hirsch avait eu le flair de la dénicher, elle était rompue à toutes les audaces scéniques, ce qu'il fallait pour les mamelles. D'ailleurs, Duval est une actrice née et ses possibilités sont infiniment variées.
Font ce qui leur plaît. Après tout, je veux aussi aller me battre pour
te dis, donnez-moi du lent.
Vous l'entendez, il ne pense qu'à l'amour. Mais tu ne te doutes pas, imbécile, qu'après avoir été soldat, je veux être artiste, je veux être aussi député, avocat, sénateur, ministre, président de la chose publique. Et je veux médecin, physique ou bien psychique, diaphorer, amoudrer, l'Europe et l'Amérique, faire des enfants, faire la cuisine. Non, c'est trop. Je veux être mathématicienne, groupe dans les restaurants, petit télégraphiste. Et je veux, s'il me plaît, entretenir à l'an cette vieille danseuse qui attend de talons.
Donnez-moi du lard, je te dis, donnez-moi du lard.
Vous l'entendez, il ne pense qu'à l'amour. Mais il me semble que la barbe me pousse, ma poitrine se détache.
La première scène des Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc, Denise Duval était Thérèse et Jean Giraudeau le mari. Voici donc la rencontre avec Poulenc en 1947, soit le début d'une longue et magnifique amitié entre les deux artistes jusqu'au décès de Poulenc en 1964. Elle est gaie, elle est vive, Denise, elle est légère, et Poulenc s'entiche de ce tempérament qui pourtant cache, comme lui, une grande mélancolie. Poulenc est un grand mondain, on le sait, un grand malin aussi, et il a alors l'idée d'amener son ami chez son autre ami, le couturier Christian Dior. Celui-ci va lui donner la garantie d'habiller sa protégée comme une reine pour les dîners en ville, et si bien qu'un rituel va se mettre en place, une voiture s'arrêtera très régulièrement devant l'hôtel Bristol où loge Denise Duval avec des cartons de la maison Dior, et la jeune beauté va se parer pour se rendre dans les salons parisiens, où elle figure donc davantage en reine de beauté qu'en soprano de la troupe de l'Opéra Comique.
Je pense toujours à l'intelligence de Francis Poulenc. Quand, en 1946, j'ai créé les Mamelles de Tirésias, Poulenc était un grand musicien, mais un homme extrêmement mondain. Et il voulait que la première des Mamelles de Tirésias soit une chose, un spectacle du tout grand Paris, les femmes avec leurs plus beaux bijoux, les plus belles toilettes, étant donné que Dior venait d'ouvrir sa maison. Et il m'avait fait connaître Christian Dior. Et le lendemain du jour où j'ai fait la connaissance de Christian Dior, Poulenc me dit, il faut que tu ailles chez Christian Dior essayer des robes. Je me suis dit, essayer des robes, comment essayer des robes? Je ne peux pas les acheter. Bon, je fais ce qu'il me dit, j'y vais. Et j'ai passé entièrement la collection de Christian Dior. J'étais mince, jeune. Et je voyais Madame Luling qui notait petit dîner, grand dîner, enfin toutes les robes qu'il fallait selon les cérémonies. Et chaque fois que Poulenc était invité chez Marie-Laure de Noailles, chez le milliardaire Lopez, enfin chez les grands de Paris, à chaque fois naturellement j'arrivais comme une femme extrêmement élégante puisque j'avais les robes qui n'étaient pas encore livrées aux clientes puisque moi j'avais celles de la collection. Et à chaque fois, on me dit, mon Dieu, mais qu'elle est charmante et qu'elle est élégante, quelle ligne. Et sa voix, tout de suite, Poulenc tournait la conversation en disant, n'est-ce pas qu'elle a du chic, n'est-ce pas qu'elle a du chic. Il a fait ça pendant 3 mois. Si bien que le soir de la première, comme jamais il n'avait été question de ma voix, le soir de la première, le tout Paris a dit, mais quelle voix extraordinaire, mais comme c'est beau. Ça, c'est une preuve, c'est vraiment... très fort oui, de la part fort. De Poulenc, parce qu'il aurait dit, oui, elle a une jolie voix, c'est clair, si vous verrez ce timbre. Pas du tout. Il a fait exprès pendant 3 mois de me présenter comme un mannequin. Je trouve ça formidable. Alors, on a pensé que j'avais une belle voix et la presse a été unanime à parler de la voix de Denise Duval et du jeu de Denise Duval.
Comme c'est joli, comme c'est
Voici donc Les Mamelles de Tirésias, créées le 3 juin 1947 à l'Opéra Comique. Le tout Paris est là, musiciens, journalistes, amis. Mais au poulailler, eh bien, il y a un formidable chahut. Le livret d'Apollinaire choque, de même que la mise en scène de Max de Rieu. Une partie du public applaudit à tout rompre, mais le poulailler pucciniste est indigné. Cela donne des représentations très mouvementées, dont la direction est plutôt flattée, écrira Poulenc à son ami Darius Milhaud. En tout cas, la beauté plastique et celle de la voix, bien sûr, font merveille. Regardez les photos de Denise Duval à l'époque, un vrai canon de beauté. Et la chef de chant, Janine Reiss, va nous parler à présent de cette relation donc assez extraordinaire entre Poulenc et Denise Duval, une amitié très forte. Poulenc appelle Denise Duval « mon rossignol à larmes »,« ma divine »,« ma biche aimée », »,« ma Denise chérie ». Il la conseille, joue le rôle d'impresario. Et en retour, Denise Duval a une influence sur le processus d'écriture de Francis Poulenc, intervenant même parfois dans la composition et dans l'ajustement de certaines notes qui ne lui conviennent pas, voire même la suppression de certaines scènes. Donc voici Janine Reiss parlant de Denise Duval. Et puis tout juste après, on écoutera Denise Duval nous parlant de l'influence de Poulenc.
Denise Duval est une de celles qui est arrivée parmi ceux qui m'étaient envoyés par la radio. Et là, j'ai eu un choc parce qu'elle est arrivée dans mon salon, habillée par Dior, ravissante. Ce qu'on appelait la parisienne type, c'est-à-dire drôle, un petit accent un petit peu gouailleur, très spirituelle, très belle, pleine de charme, très vive d'intelligence. Et elle est venue travailler un ouvrage qu'elle devait chanter à la radio. Et puis le lendemain, elle m'a téléphoné, un coup de téléphone tout à fait charmant, en disant « Bon, écoutez, moi, je ne vous avais jamais rencontré avant. Si je n'avais pas été envoyée par la radio, je serais probablement jamais venue chez vous. Alors, je crois qu'il faut pallier à cette chose. Moi, j'ai d'autres rôles à travailler. Est-ce que vous voulez bien me les faire travailler ?» Moi, je ne demandais que ça. Vous pensez à l'époque, Denise Duval qui tombait chez moi. C'était extraordinaire. C'était le grand bonheur, parce que c'était vraiment une interprète alors fabuleuse. Parce que, justement, voyez-vous, elle incarnait à mes yeux ce que j'ai toujours cherché à reconstituer d'une certaine façon, l'actrice et la chanteuse en même temps.
Je pense que ma vraie nature était cette carrière de faire de l'opérette. Et puis, j'ai commencé d'abord par la comédie, la tragédie, puisque je voulais être comédienne et je détestais le chant. Et Poulenc m'a lancée. Et après, il n'était plus question pour moi de faire des opérettes. J'avais chanté Marouf avec Raoul Jobin, qui m'a dit « Il faut absolument que vous fassiez de la comédie musicale, que vous fassiez de la grande opérette. Denise, je vous emmène, j'ai un ami qui veut absolument vous engager. » Naturellement, Poulenc était là. Il m'a dit « Il n'est pas question que tu fasses d'opérette. À la radio, tu fais des opérettes pour Dominique Plessis. Jules Gressier m'en a fait faire toutes les semaines avec le grand orchestre. Je chantais avec Willy Clément, enfin tous les grands de l'opérette. Mais ce n'était pas mon métier et j'ai appris beaucoup. »
Mais vous ne pensez pas que les Mamelles de Tirésias, c'est une sorte d'opérette ?
Tout à fait, vraiment.
Alors, lui qui ne voulait pas que vous en fassiez, il en a fait une pour vous ?
Oui, mais il n'y a pas de texte dans l'opéra bouffe. Tandis que ce qui est très difficile, c'est d'abord la série, qui est un métier, contrairement à ce que les gens pensent, ils vous disent l'opérette, ce n'est rien. Mais c'est peut-être le métier le plus dur, parce que vous avez les matinées, les soirées, il faut danser, il faut chanter, on est bissé dans les airs. Et ça, je ne sais pas, c'est un métier que je n'avais pas, que je n'aurais pas, peut-être pas pu tenir si je n'avais pas appris. Vous voyez, c'est un autre métier.
Alors, madame, il faut mourir.
Il faut mourir.
C'est un moment désagréable.
Désagréable.
Mais si vous êtes raisonnable.
Raisonnable.
On ne vous fera pas souffrir.
Pas souffrir.
Grâce, grâce. Messieurs les gendarmes, épargnez-moi, jeunesse et mes charmes.
Ordre formel de vous couper la gorge.
Couper la gorge.
Monsieur, plutôt la mort.
Nous ne vous forçons pas.
Nous ne vous forçons pas.
Allons, choisissez la mort.
La mort ou le trépas.
Maman,
choisissez
maman,
le trépas.
Oh, 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 oh,
maman, pour sa maman.
Elle ne veut pas me battre. Non.
Seul maman.
Ma chère maîtresse, pourra à cette voix, à une voix, montez sur moi, sur votre page, et vous n'attendrez pas longtemps.
Allons !
Laissez-moi faire ma prière.
Rien de mieux,
c'est un devoir bio.
Bonne ermite, pêche à prima. Bonne ermite, viens à mon aide, ma prima. Sois prête, et si ça leur fait mal, me la tire, m'est égal. Mais crois-moi, hâte-toi.
Bonne ermite,
Bonne ermite, Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach, truculente scène avec Geneviève et les deux hommes d'armes. Denise Duval qui chante donc ici une opérette avec les services lyriques de la radio, qui va interpréter à la même époque aussi des rôles dramatiques, Salfavar, et même au Palais Garnier qui lui ouvre sa scène en 47. Elle y incarne notamment Hérodiade ou Thaïs ou encore Manon de Massenet. Mais il faut bien dire que la soprano ne s'épanouit pas toujours dans des rôles qu'on lui donne quand même assez légers, comme Papagena dans La Flûte Enchantée ou même Zahir des Indes Galantes. L'opéra lui trace quand même une voie qu'elle ne suit qu'avec regret, attendant des rôles plus denses. Et c'est encore Poulenc qui va lui offrir un rôle à sa mesure, d'autant qu'il la connaît si bien. Derrière son masque de gaieté, Denise est d'une nature plutôt sombre et mélancolique. Ils se ressemblent, hein, les Poulenc. Alors le compositeur va proposer à son ami le rôle de Blanche de la Force dans la pièce de Georges Bernanos, écrite d'après l'épisode tragique des Carmélites de Compiègne durant la Terreur. Denise Duval.
Vous savez, quand il m'a donné les mamelles de Tiresias, c'est parce qu'il a vu une femme jeune. Oui. J'étais bien, enfin jeune, oui. Quand on est jeune,
belle,
on est toujours...
Mince.
Oui, non, j'avais toutes les qualités pour faire ce rôle qui peut se transformer en homme, l'abattage. Bon. Puis après, nous nous sommes connus, intimement. Et il a vu que mon tempérament n'était pas du tout une femme qui était projetée sur la scène. Alors là, il s'est rendu compte, bon, il a pensé... Par accident, les dialogues ont été un accident. Il a commencé une dépression. Et puis, grâce à Hervé Dugardin, il a eu le texte, la permission de faire les dialogues des Carmélites. Bon, tout de suite, il s'est dit Blanche, c'est Denise. Il n'a pas vu un autre. Alors que si j'avais eu la voix, on m'aurait donné Constance. J'avais pas cette tessiture, mais vous voyez, le personnage que je représentais sur scène, c'était la fantaisie, l'heure espagnole, la fille bandante, pour parler vulgairement, mais qui dépeint exactement la bonne femme. Absolument. Tandis que lui savait que j'avais peur, que j'étais une femme peureuse, craintive, sentimentale.
Fragile.
La peur de la peur, c'était mon caractère. Et après, il s'est rendu compte que... Bon, une fois que ça a été un succès qu'on m'a découverte, parce que quand il m'a dit le rôle à Hirsch, le rôle est pour la Duval, parce qu'il m'appelait toujours la Duval. Hirsch m'a dit non, tu lui casses les reins, tu ne peux pas lui donner ça. Ça m'est égal, je ne montrerai pas l'opéra. Donc il m'a vraiment imposé.
Mais j'ai honte aussi de pleurer.
la scène du troisième acte des dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, créé à l'Opéra le 21 juin 1957, avec sur le plateau Régine Crespin, Rita Gore, Xavier Depraz, Jean Giraudeau ou encore Liliane Berton, un triomphe pour l'œuvre et pour Denise Duval, dont bien des années plus tard, Jean-Louis Dutronc écrira que ces dialogues l'avaient épurée, innocentée, anoblie, lavée de toute coquetterie. Elle rompait avec Musette, Angélique, Conception ou encore la Péricole. Et Denise Duval elle-même le dira. Je me retrouvais dans Blanche, même si le rôle est moins payant scéniquement que celui de Constance ou celui surtout de la première prieure. Poulenc m'a appris avec ce rôle à me placer au bord de moi-même, à regarder au fond de moi pour exprimer ce que j'avais parfois tendance à cacher. J'ai porté Blanche autant que Blanche m'a porté. Et j'ai comme l'impression que Francis me l'a donné pour que je me reconnaisse. Je trouve cette phrase absolument magnifique sur le rapport d'intensité et d'intimité entre un créateur et son interprète. On retrouve tout de suite Denise Duval avec son franc-parler, évoquer cette fois sa relation avec Poulenc justement dans l'écriture. Et puis on écoutera tout de suite après la chef de chant Janine Reiss évoquant justement le travail sur la voix humaine, autre rôle sur mesure composé par Poulenc pour Duval.
Poulenc avait très peur de Bernac. Là aussi, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, quand je les ai connus, j'étais sûre que c'était Poulenc qui avait fait Bernac. Parce que ça, Poulenc, Bernac, bon, ça, Bernac, je trouve qu'il chantait admirablement. Sa voix était laide, mais il tirait de sa voix la quintessence de tout ce qu'il pouvait faire. Mais je me disais, il a de la veine parce que c'est Poulenc qui le fait travailler. Mais pas du tout. Comme on allait chez Bernac pour travailler, ou les mélodies, ou enfin, ce qu'il y avait à voir, Bernac lui disait « Vous jouez comme un cochon, c'est mauvais. Là, vous mettez trop, là c'est trop doux. Là, vous l'empêchez de respirer. » Et c'était Bernac qui faisait travailler Poulenc, qui avait une peur bleue de Bernac comme il avait une peur bleue de moi. Alors, Bernac lui faisait peur musicalement. Et moi, je lui faisais peur parce que je lui disais la vérité. Quand, par exemple, dans les dialogues, je n'ai pas là, toutes mes partitions sont dans des caisses, mais enfin, dans les dialogues, chaque fois qu'il écrivait, il me faisait un téléphone en me disant ma chérie, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Il me jouait, ça c'est trop long. Avec, par exemple, Denis Charlet, le rôle de la prieure, je lui dis, mais là, ça n'intéresse personne, là, c'est long, tu coupes jamais. Eh ben, tu coupes pas, tu m'emmerdes. Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Alors, pourquoi tu me demandes pour que je te dise que c'est bien? Je te dis que c'est mauvais, là, ça c'est trop long. Et il riait.
Un jour, elle m'a annoncé la visite de Francis Poulenc, qui apportait les pages manuscrites de la voix humaine qu'il était tenté d'écrire pour elle. Et alors, nous lisions ces pages au piano et elle râlait fort parce qu'elle trouvait que c'était mal écrit en ce sens qu'elle prétendait, quelquefois à juste titre, que c'était écrit trop dans l'aigu. C'est un petit peu d'ailleurs, quelquefois, la difficulté que rencontrent les chanteurs dans le dialogue des Carmélites ou dans les Mamelles de Tirésias. Et elle lui disait « Écoute, Poupoule », car elle l'appelait Poupoule dans l'intimité. Écoute, Poupoule, si tu veux que j'articule, il faut que tu baisses ça d'une tierce. Alors, écoute-moi, Denise. Et il avait pour cette femme une adoration, une admiration vraiment, vraiment touchante, bouleversante. Il la regardait avec amour.
Je ne sais pas.
madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment, ma faute? Pas du tout. Allons, mademoiselle, dites à cette dame de se retirer.
Le début du long monologue lyrique de 45 minutes qu'est la voix humaine de Francis Poulenc, qui ici c'est Georges Prêtre qui dirigeait Denise Duval, et l'orchestre de l'Opéra de Paris. C'était une mise en scène signée Jean Cocteau. Un rôle unique dans l'histoire du théâtre lyrique, qui n'est pas un rôle de chanteuse, disait Denise Duval. Et en effet, ici, c'est l'art du monologue poussé de façon la plus extrême, à bien plus qu'Erwartung de Schoenberg, avec de nombreuses sections a cappella. C'est d'ailleurs pourquoi un ami qui regrettait le choix de Denise Duval, Jean Cocteau, écrira « Nous avons Poulenc et moi refusé les cantatrices, nous voulions une grande comédienne qui articule et qui joue. Or, chez Madame Duval, c'est sa précision et sa féminité qui touchent. Ni la Thébaldi ni la Callas ne pouvaient jouer ce rôle d'oiseau blessé par le chasseur invisible. »
Poulenc voulait écrire la voix humaine pour Maria Callas, parce que vous avez connu Hervé Dugardin, ils étaient très amis, alors ils étaient à la Scala ensemble, je ne sais plus ce que chantait Maria Callas. Poulenc pensait beaucoup à écrire la voix humaine. Et Hervé lui dit, ça, je vais essayer d'avoir, tu crois, oui, je pense que je vais faire ça. Mais Poulenc lui dit, ce ne sera pas pour la Callas, ce sera pour Duval. Et là, j'ai fait la connaissance de Cocteau, une fois que l'ouvrage était écrit, et nous sommes partis à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et Poulenc me dit, la partition venait juste de sortir de l'imprimerie, il me dit, écoute, tu la sais, Cocteau ne sait pas, enfin, on lui jouera ça. Et là, j'ai fait vraiment la connaissance de M. Cocteau, que je ne connaissais pas, mais qui m'impressionnait beaucoup, parce que Cocteau était sur tous les magazines, avec toutes les femmes les plus élégantes du monde, enfin, dans un milieu que je connaissais, mais que je ne fréquentais pas tous les jours. Je me disais, pourvu qu'il ne travaille pas en mondain, avec ses petites manchettes de trucs, ses petits sautants comme ça, faisant le baisement, enfin, j'avais très peur. La première audition a été faite dans un petit studio comme ça avec un piano. Et Poulenc lui dit, écoute, je vais te jouer la pièce, l'ouvrage, il lui joue. Cocteau ne dit rien, il était très pâle. Et il lui dit, écoute, on va couper l'ouvrage en quatre. Il y avait je ne sais pas combien de pages. Rejoue-moi la première partie. Bon, Poulenc lui rejoue, je le chante. Il dit, bon, eh bien, on va travailler au casino. Et puis, on va voir ça demain très sérieusement. Je me dis, tiens, comme il n'a pas l'ouvrage, ça va être encore mignon, ces metteurs en scène de génie, là, qui... Il y a la musique, il y a peut-être la comédie, mais il y a aussi autre chose que la comédie. Bon, étant donné que musicalement, ce n'est pas que ce soit difficile, mais c'est la femme qui fait partir le chef d'orchestre. Donc, il faut quand même avoir une base et régler son jeu sur des temps morts, qui fait qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Enfin, ça, ce sont des choses de technique. Je vois Cocteau qui me dit, madame, vous faites ça, 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 il se met à genoux, enfin, il me montre ce qu'il veut. Alors, une ou deux fois. D'abord, ce qui m'avait vraiment soufflé, il avait la musique dans la tête. Ça a été joué une fois. Alors, il allait au piano, il revenait là, il me semble que là, il y a un temps mort. C'est pas possible, il a la partition, c'est pas possible. Il n'avait pas la partition, puisque c'était moi qui l'avais. Il me montre certaines choses, bon. Tout de suite, je pige parce que c'est un homme qui expliquait très, très, très simplement. Une fois ou deux, il me dit, vous faites ça, parce qu'à ce moment-là, il me disait, vous. Je le regarde faire, je trouvais que ce n'était pas du tout ce que je pensais. Alors, il me regarde et puis il me dit, mais ça ne vous plaît pas. Je dis, je ne sais pas que ça ne me plaise pas, je vais faire exactement ce que vous voulez. Mais moi, je vous ferai, mais je fais d'abord ce que vous voulez mettre. Et je fais ce qu'il me dit. Bon, alors faites-moi ce que vous voulez. Je fais ce que je sentais parce que j'ai pas de génie. On me dit, il faut surtout pas quitter ça. Ça, c'est bon. Vous voyez l'homme intelligent. Ouais. Et nous avons travaillé pendant 2 ou 3 heures ces 15 ou 20 pages qu'il savait alors par cœur.
Allô ? Oh, chérie, c'est toi. On avait coupé. Non, non, j'attendais. On sonnait. Je décrochais, il n'y avait personne. Sans doute, bien sûr. Tu as sommeil. rien, je n'ai rien. Je te jure que je n'ai rien. C'est pareil, rien du tout, tu te trompes. Seulement tu comprends, on parle, on parle. Écoute, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, ce n'est pas ça. Je te mens. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre. Mais mentir ne porte pas la chance. Et puis, je n'aime pas te mentir. Je ne peux pas, je ne vais pas te mentir, même pour ton bien. Oh, rien de grave, mon chéri. Seulement je mentais en te dégrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas ma robe rose, j'ai un manteau sur ma chemise, parce qu'à force d'attendre, ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener sous tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, attendre je ne sais quoi. Tu as raison.
Lorsqu'il a composé la voix humaine, est-ce qu'il a modifié pour vous, est-ce qu'il a modifié pour Cocteau, ou est-ce que tout coulait de son piano et c'était du bronze?
Non, je pense qu'il s'est laissé, il était en plein drame sentimental. Mmh. Alors il a compris la pièce de Cocteau mieux que personne, parce que les appels téléphoniques, quand on est amoureux, on les attend. Quand on est trahi, on sent qu'on est trahi. Et moi, j'étais en plein drame aussi. Nous étions tous les deux dans des drames sentimentaux de premier ordre. Alors, quand il écrivait une ou deux choses, je disais, je ne sais pas, tu vois, moi, je ne vois pas ça comme ça, parce que regarde-toi ce qu'il te fait, ce que tu penses que... Non, tu as raison. Non. Alors, vous voyez, ça a été une chose qui s'est faite d'une façon morbide, si vous voulez, où il a laissé beaucoup de choses de lui, parce que il a créé... Ce personnage, on pensait que ça pouvait ne pas être mis du tout ça n'a, en musique. 45 minutes, une femme qui se lamente, allô, allô, mais non monsieur. Il a seulement coupé la scène du chien.
Oui, c'est tout ce,
ça,
qu'il, a coupé,
c'est tout ce qu'il a coupé. Et il rentrait dans l'ouvrage parce que c'était exactement ce
c'était,
qui,
lui.
C'était lui. Parce que ce qui se passait là, c'était exactement ce qui se passait sans changer une virgule dans notre vie. Je pense que j'ai apporté dans ce rôle une chose non pas unique, parce qu'on n'est jamais unique, mais une chose d'une grande sensibilité, d'une grande authenticité. Toutes les femmes ont eu un drame, plus ou moins. Mais moi, j'ai eu la veine, si on veut, d'avoir ce drame en même temps que la création de cet ouvrage. Alors, comme on dit, c'était à chaud. Peut-être que j'aurais connu un autre homme, j'aurais été très heureuse. Est-ce que j'aurais fait cette chose-là aussi bien? Je ne sais pas. J'aurais peut-être eu des flashs de mon malheur, mais on n'est pas comme quand on vient d'être meurtri complètement.
Alors, voilà.
Il faut aller voir et pas seulement aller écouter la voix humaine, mais il faut bien choisir son interprète et son spectacle. Car comme disait Denise Duval, si on n'a pas attendu un coup de téléphone, si on n'a pas été plaqué, si on n'a pas souffert de l'attente vaine, on ne peut pas jouer cette œuvre de détresse vécue. Il existe d'ailleurs un film tourné en 1970 où Denise Duval crève l'écran, c'est renversant, je vous recommande vraiment ce film. Et pourtant, à cette époque, la chanteuse l'interprétait en playback puisqu'elle avait interrompu sa carrière. Alors on entend sa voix d'or des années de gloire et cette femme vieillissante. En 1970, Denise Duval a arrêté sa carrière en 65, hein, donc 5 ans auparavant. Sans regret, de façon très nette.
J'ai toujours eu en mémoire ces chanteuses qui ne savaient pas se retirer. Et c'est une chose, je me disais toujours, moi, je m'arrêterai à 50 ans. Bien ou pas bien, j'aurais peut-être fait comme les autres, j'aurais peut-être en me disant, elle n'a pas du gain, parce que forcément, c'est quand on finit sa carrière qu'on gagne le plus. Parce que quand on est jeune, on vous paie des clopinettes. Bon. Alors, on a un nom, on est flatté, on a une cour, on a une auréole, qui doit être difficile à rejeter. C'est facile à dire comme je suis là, peut-être. Alors, je me suis dit, si je retravaille, je n'ai jamais aimé chanter. Jamais. Parce que ça m'embêtait. J'aimais jouer, mais je n'aimais pas chanter. J'aurais eu peur. J'étais déjà peureuse quand je faisais ce que je faisais. Et je trouve qu'il vaut mieux savoir tourner la page d'un seul coup que de risquer, paniquer comme j'aurais été, paniquer en me disant pourvu que je ne m'enroue pas au milieu, pourvu qu'on ne puisse pas baisser le rideau, ça aurait été un enfer. Alors 46 ans au lieu de 50, j'ai tourné la page. Et je vous dis, je ne peux même pas réaliser que j'ai chanté.
Pipita, reine de Venise, quand tu vas sous ton mirador, tous les gondoliers se disent prends garde, Toriador. Sur ton cœur, personne ne règne dans le grand palais où tu dors. Lorsque sur la place Saint-Maur, les torrents fureur qui bave tombent tués par ton poignard. Ce n'est pas l'orgue qui caresse ton cœur sous la baoute d'or, car pour une jeune déesse, tu brûles, Toréador. Belle espagnole, dans ta gondole, tu caracoles, Carmencita, sous ta mantille, œil qui pétille, bouche qui brille, c'est Pepita. Escure, qu'aura lieu le combat à mort. Le canal est plein de voitures, fêtant le Toréador. De Venise, plus d'une belle, palpite.
vite pour savoir ton sort. Mais tu méprises leur dentelle, tu souffres, Toréador. Car ne voyons pas apparaître, caché derrière un horloger, pipitant seul à sa fenêtre, tu médites de te venger. Sous ton cafetan passe ta nague, la jalousie au cœur t'est mort, et seul avec le bruit des vagues, tu pleures. Belle espagnole, dans ta cardole, tu caracoles, carmencita, sous ta mantille, œil qui pétille, bouche qui brille, c'est pépita. Que de cavaliers, que de monde, remplit la reine jusqu'au bord. On vient de 100 lieues à la ronde t'acclamer, Toréador. C'est fait, il entre dans l'arène avec plus de flegme qu'un lord. Mais il peut avancer à peine, le pauvre Toréador. Morne que de mourir sous tes yeux,
c'est avec Toréador de Francis Poulenc qui accompagnait ici Denise Duval que nous refermerons ces greniers de la mémoire. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, Claire Levasseur, Christine Amado, Françoise Monteil et Alice Keller.